Bonjour à tous, une grande table entre mémoire et temps qui passe aujourd'hui. Avec nous à partir de 12h55, le biographe français Philippe Ménard, auteur de Primo Levi, Le passage d'un témoin, livre sorti en 2011, disponible aujourd'hui chez Fayard, collection plurielle. Retour sur l'œuvre et la personnalité de l'auteur de Si c'est un homme, à l'occasion du centenaire de sa naissance. Pourquoi lire encore Primo Levi aujourd'hui? Mais d'abord, Christian Boltanski et la plasticité du temps. L'artiste est notre invité à l'occasion de la vaste et belle rétrospective Faire son temps, que lui consacre le Centre Pompidou jusqu'au 16 mars. Entre monuments et reliquaires, une valse d'images à trois temps où la mémoire cohabite avec le hasard. Christian Boltanski est notre invité jusqu'à midi et demi, à écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Et bonjour Christian Boltanski.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Dans cette rétrospective que vous avez co-scénarisée, co-pensée avec Bernard Blisten, vous repartez de vous avec 27 possibilités d'autoportrait. Tout part toujours de là, de soi, la création en tout cas.
Vous savez, on ne peut parler en gros que de soi-même, mais ce qu'il faut, c'est que soi-même devienne les autres. Il faut que chaque visiteur se dise, mais comment sait-il ça de moi? D'ailleurs, je pense par exemple que si on peut, et si j'aime tellement Proust, c'est que Proust ne parle pas de lui, mais il parle de chaque lecteur. Parce qu'on a tous été jaloux, on a tous attendu notre mère une nuit dans une chambre, on a tous eu un oncle ridicule ou une tante ridicule. Et donc à chaque fois qu'on le lit, on se voit. Et donc je pense qu'il y a cette chose merveilleuse de l'art qui est à la fois de parler de soi, mais que chacun se reconnaisse dans ce soi. Et pendant longtemps, je pensais que l'artiste était quelqu'un qui avait un miroir à la place du visage et que chaque personne qui le regardait se reconnaissait. Et disait, mais c'est, comment il doit connaître mon oncle machin, c'est pas possible. Tellement qu'il le prend tout ce qu'on dit pour lui-même.
C'est ça que permet l'art, c'est ça que permet la création, d'aller chercher cette part d'universel aussi en soi, ou en tout cas traduire cette part-là de soi.
Oui, je raconte toujours ça. La première fois où j'ai exposé au Japon, il y a très longtemps de ça, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup et où je vais très souvent, je fais une exposition et les Japonais, qui sont des gens aimables, m'ont dit « Mais vous connaissez tellement bien le Japon et nos traditions et la culture zen. Et d'ailleurs, vous faites un peu japonais, vous devez avoir un grand-père japonais. » Et j'en étais ravi parce que j'aimerais que si j'expose en Afrique, on me dise que j'ai un grand-père africain. Parce que naturellement, comme on le sait, c'est toujours le spectateur qui termine l'œuvre. Il le termine avec son propre vécu. Quand on voit des gens dans une salle de cinéma qui regardent un film, naturellement, chacun regarde un film différent.
Puis, dans cette exposition, vous remontez le temps, Christian Boltanski. Vous remontez jusqu'à votre enfance, avec les premières œuvres, La Chambre ovale, 67. Un essai aussi de reconstitution, 70, où vous cherchez à vous remémorer les objets de votre enfance, avec des matières aussi qu'on a l'habitude de toucher, de malaxer, comme la pâte à modeler, à ces âges-là. Louise Bourgeois, comme Niki de Saint-Phalle, elles ont puisé dans la blessure de leur relation avec leur père pour créer. Vous, dans les récits, qu'enfant, vous entendiez des rescapés de la Shoah, proches de vos parents, une enfance pas comme les autres, vous l'avez souvent dit, pas normale, anormale, que vous aviez donnée à comprendre, notamment en 72, en concevant cette œuvre, 62 membres du club Mickey en 1955, les photos préférées des enfants. Ça, c'est des photos d'enfants qui étaient parues dans ce magazine jeunesse que vous aviez conservées.
Oui, je disais Mickey comme tous les enfants, naturellement. Mais là, il y avait un désir, disons, de se perdre dans une sorte de normalité. Dans la même année, j'ai fait un travail qui s'appelle l'album de la famille D, et qui était l'album de mes amis qui s'appelait Durand. Et je voulais être justement le plus universel et normal. Donc c'est une famille normale, c'est des enfants normaux qui sont au club Mickey. Il y a aussi une autre œuvre qui s'appelle Les habits de François C, qui sont tous les habits d'un enfant. Enfin là, il y a un désir de penser à ce que nous sommes tous et où là, vraiment, chacun peut se retrouver. Mais si vous parlez de mon enfance, moi j'ai eu une enfance très heureuse et je pense que c'est pas forcément dans la normalité qu'on a une enfance heureuse, mais parfois dans l'anormalité.
Pourquoi ?
parce que j'ai eu une enfance finalement libre et qu'il y avait le bonheur. Je sortais très très peu, j'étais très enfermé, mais il y a un grand bonheur d'être enfermé. Je suis quelqu'un d'extrêmement calme et je pouvais passer des heures à regarder par la fenêtre ou être enfermé dans une voiture et j'en étais très heureux.
Cette famille un peu braque, un peu folle qui était la vôtre aussi, votre neveu Christophe Boltanski l'a raconté en partie dans un livre, La Cache, paru chez Stock. Cette enfance de l'art aussi, il y a dans ses pages cette description qu'il fait de vous. Le plus souvent, il restait blotti, prostré comme un petit animal craintif, accolé à son radiateur à huile, au milieu d'un fouillis de papier gras, détritus, conserves, entamées, mèches de cheveux crépus, rouleaux de feuilles d'aluminium, vieux cartons sous coupe sale, coupures de journaux, vêtements qui conservaient l'odeur des puces où ils avaient été achetés, pinceaux aux poils durcis par de la peinture séchée. Vous étiez cet enfant-là, introverti ?
Oui, mais je pense que la beauté de l'art également, c'est que c'est comme une sorte de psychanalyse sauvage, c'est-à-dire que le fait de parler de son malheur fait qu'on éloigne son malheur. Il y a au début de chaque vie d'artiste un trauma, je pense, et vous citiez Louise Bourgeois, et Louise Bourgeois, c'était la relation avec son père, et puis le fait d'avoir à parler de ce trauma, ou simplement de parler aux autres, fait qu'on peut continuer à vivre, qu'on peut s'échapper de son propre malheur qui serait terrible s'il restait en nous. Et donc je pense que l'art guérit. L'art guérit puisque l'art crée une distance et puis que l'art devient de l'artifice. Vous n'êtes plus malheureux, vous jouez le malheur. Vous donnez à voir le malheur.
Quand vous regardez cette enfance qui a été la vôtre, Christian Boltanski, à travers vos œuvres, quand vous les regardez aussi droit dans les yeux, est-ce que vous diriez que l'enfant décrit là par Christophe Boltanski devait devenir ce qu'il est devenu, c'est-à-dire l'homme que j'ai en face de moi aujourd'hui dans ce studio?
Je dois beaucoup à mes parents parce que ils auraient pu m'envoyer chez les psychiatres ou me mettre en apprentissage. Et ils m'ont dit, tu ne veux rien faire, je ne pouvais pas aller à l'école, je m'enfuyais des écoles. Tu veux rester à la maison, reste à la maison. Tu veux faire de la peinture, fais de la peinture. Donc je crois, si j'avais, j'ai pas d'enfant, mais si j'avais un conseil à donner aux parents, c'est de ne pas s'inquiéter que leur enfant travaille très mal à l'école ou rate ses examens. On ne sait jamais ce que ça peut donner. Et mes parents m'ont accepté ça. Et puis finalement, bon, ils m'ont laissé faire ce que j'avais envie de faire.
C'est cette liberté qu'ils vous ont laissée, qui vous a permis aussi de devenir ce que vous êtes.
C'est de ne pas me faire ressentir comme anormal. Mmh. Mais de me faire ressentir au contraire comme glorieux en quelque sorte.
Et de vous autoriser, ou de vous mettre entre les doigts, un pinceau, un crayon, et peut-être aussi un petit transistor quelque part dans la chambre. Vous dites, j'ai tout appris par l'oreille. Vous travaillez d'ailleurs en musique, ou avec la radio allumée, en tout cas c'était le cas à l'époque. C'est une habitude qui remonte, vous l'avez déjà raconté, à l'adolescence. Il y a 50 ans, sur quoi auriez-vous pu tomber, Christian Boltanski, ou êtes-vous tombé, si vous écoutiez à ce moment-là France Culture, un jour comme aujourd'hui, c'est-à-dire un 15 novembre, exactement sur ça?
Du bruit au son, une émission présentée par Sylvie Albert.
Monsieur le professeur Paul Chauchard nous parle du cerveau.
Puis-je vous demander, monsieur, pourquoi certaines personnes ont besoin de ce que Eric Satie appelait la musique d'ameublement, c'est-à-dire un fond sonore auquel on ne fait pas attention, mais qui repose et qui défatigue l'esprit?
En réalité, je crois que c'est plutôt une mauvaise habitude. Évidemment, il faudra distinguer, savoir de quelle musique il s'agit. Mais les jeunes qui, par exemple, ont besoin d'une musique extrêmement intense, à grande intensité, eh bien, en ont absolument besoin, mais je dis que c'est un peu comparable à la morphine. À la morphine aussi, on s'en habitue, notre corps en a besoin, alors que c'est un grand toxique. Eh bien, de même, on s'habitue au bruit, qui est un toxique du système nerveux. Et bien entendu, je ne veux pas dire que travailler en musique ne peut pas avoir des effets favorables. Au fond, il arrive parfois justement que des causes qui sont fatigantes pour l'individu normal puissent être détendantes, par exemple, pour l'individu fatigué. On le voit dans un autre domaine autre que les bruits, mais très voisins, les vibrations. Eh bien, les vibrations de basse fréquence que nous n'entendons pas sont très fatigantes, mais en même temps, vous savez, je crois que c'est à la gare de Bruxelles qu'il y en a encore, on doit mettre telle somme et vous allez sur un appareil de vibrations qui a une certaine action détendante et défatigante.
Voilà, France Culture, le 15 novembre 1969, Christian Boltanski, il vous faut du son encore aujourd'hui. Pourquoi cette édition ?
Ce qui est merveilleux, j'écoute France Culture à peu près toute la journée, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on l'écoute sans l'écouter. Je m'excuse de vous dire ça et de dire ça ici.
Bah, je m'excuse pour vous surtout, parce que là c'est vous qui parlez, ça veut dire qu'on ne vous écoute pas.
On prend ce qu'on a besoin de prendre. On prend un mot, on prend une phrase. C'est-à-dire que la beauté, je pense, de la radio, par exemple, par rapport à la télévision, c'est que c'est quelque chose qui vous accompagne pendant qu'on fait autre chose. On a une occupation, et puis il y a ces voix qui vous parlent, et on saisit ce qu'on a envie de saisir, et ce dont on a besoin de prendre. Donc il n'y a pas une écoute obligatoire. Et pour moi, j'ai effectivement beaucoup appris en écoutant la radio, mais... sans pouvoir dire que c'est une chose tout à fait précise. J'ai appris des bribes et des paroles, et parfois une parole qui m'est restée, ou que j'aime, ou qui...
Mais vous pensez qu'il peut y avoir, comme exprimé dans cet extrait, une addiction au son, une dépendance, et peut-être une peur du silence ?
Il s'agissait de son qui n'était pas de la parole. Quand j'arrive dans mon atelier... Je mets la radio, mais je pense que c'est aussi la peur de la solitude. C'est que, s'il y a quelqu'un, quoi. Il y a quelqu'un qui est là. Et ce qui n'empêche pas que j'écoute peu, que je ferai autre chose en même temps, mais il y a quelqu'un qui est là. Et je pense que la radio, ce qui est très beau de la radio, c'est que, on se souvient de quelque chose parce qu'on était en voiture, et qu'on voyait un paysage en même temps. Oui, c'est que c'est toujours lié à un événement de la vie qui est un événement extérieur à l'objet même de ce qu'on écoute.
Mais dans vos installations, il y a aussi souvent, où il peut y avoir du son, il peut y avoir aussi des odeurs, il peut y avoir pas simplement de la matière.
Moi, vous savez, quand on visite une de mes expositions, je dis toujours que c'est un petit peu comme quand on entre dans une église dans le sud de l'Europe, et la porte est ouverte, puis il y a un monsieur qui lève les bras, il y a du son, il y a de la fumée, et parfois une odeur, il y a des choses à regarder, et on comprend rien, on ne sait pas ce qui se passe, mais on s'assoit, et puis on reste là un quart d'heure, puis après ça on va déjeuner. Et pour moi, la visite d'exposition est vraiment cela.
Christian Boltanski, vous êtes avec nous jusqu'à midi et demi pour l'heure France Culture. Il est midi 14 et on va faire une petite pause musicale, c'est dans l'actualité.
Rocks are buried beneath tons of earth to become diamonds. With the gift of the sunlight, the kudzu vine goes climbing. Instruments play, songs brought forth from the minds of their makers. These vibrations resound, bringing union and joy to all takers. A parade of first morning's breaking. We pray what we see and we hear might be ours for the taking. We rise every day and we will till our golden star bursts. We open our hearts and say, Lord, do your best, do your worst.
Voilà, c'est Sweet. Le titre s'appelle In Good Face. Il est signé de Will Oldham, auteur, compositeur, interprète américain, plus connu sous le pseudo de Bonnie Prince Billy. Son nouvel album sort là, en ce moment, et il s'appelle I Made a Place.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Et un peu de douceur dans ce studio avec vous, Christian Boltanski. 35 ans ont passé depuis votre première rétrospective au Centre Pompidou. On est là pour remonter le temps avec vous, pour essayer de comprendre ce rapport que vous pouvez aussi entretenir au temps que vous exposez en ce moment. Une présentation conçue différemment, regroupant une quarantaine d'œuvres qui au final n'en font qu'une. Départ et arrivée, deux enseignes lumineuses ouvrent et clôturent le parcours. Cette déambulation entre vie et création, entrée, sortie, début et fin, naissance et mort. Ça, c'est le cycle humain, Christian Boltanski.
C'est une rétrospective, effectivement, même si ça n'a pas l'air d'être une rétrospective et si je n'aime pas beaucoup les rétrospectives. Et le titre est « Faire son temps » dans tous les sens du terme. C'est-à-dire « faire son temps », c'est que, effectivement, vu mon âge, j'ai fait mon temps. Et en même temps, comme chaque être humain, je fabrique mon temps constamment.
Parce que faire son temps, ça voudrait dire, si vous acceptez ou que vous actez cette idée-là, que vous n'avez plus rien à dire.
Non, je continue à... Il y a vraiment deux sens. Il y a effectivement l'avoir fait et le faire. Donc on peut choisir le sens que l'on désire. Mais je pense que nous faisons quotidiennement notre temps. On fait constamment notre temps, on le fabrique constamment. Et donc, effectivement... L'exposition est conçue comme un chemin où on va d'un point à un autre, mais qui n'est pas forcément chronologique. Il n'y a pas l'idée des œuvres plus anciennes, et puis après ça, on avance. C'est un petit peu comme ça, mais pas totalement. C'est plutôt un chemin, où on peut, j'aime pas le mot initiatique, mais disons, il y a effectivement un chemin mental.
Si je reprends le titre de l'une de vos installations, de l'une de vos œuvres, Menschlich, exposée pour la première fois à Aix-la-Chapelle en 1994, à travers 1200 photos où vous mélangez à la fois le bien et le mal, les visages des victimes et des bourreaux, quelle conception de la nature humaine pensez-vous donner à voir à travers tout ce parcours de l'exposition ?
Bon, il y a chaque œuvre est une petite parabole pour moi et une question que j'essaie de poser, pas par des mots, mais par des visuels ou par des sons. Chacun peut la comprendre ou la voir comme il désire la comprendre. Et surtout, il n'y a que des questions, mais aucune réponse. Je déteste les réponses, donc il n'y a que des questions. Et là, il s'agit effectivement, c'est la paix des cimetières. C'est des visages, ils sont tous morts. Et on ne sait plus qui était qui, c'est la vieille tradition des vanités, bon et mauvais, riche ou pauvre, heureux, malheureux, cendre aujourd'hui. Et donc là, c'est comme ça. Et finalement, parfois, le bourreau peut devenir une victime. De toute façon, tout ça, c'est oublié, c'est la paix.
On est tous égaux face à la mort, ou dans la mort, plutôt.
Il semble que nous allons mourir un jour, c'est une chose plausible. Vous savez, c'est un très vieux, il y a très peu de thèmes en art, il y a la recherche de Dieu, pourquoi nous mourons, le sexe, la beauté de la nature, et donc c'est effectivement une des questions que l'humanité se pose depuis le début des temps. Je crois qu'on considère que les humains ont commencé à être vraiment humains quand ils ont enterré leurs morts, et donc c'est une très très vieille question. Mais pour moi, il n'y a pas une réponse à ces questions, il y a seulement cette question.
Il y a aussi une foule vue de dos qui disparaît au loin. La vidéo, le passage illustre sans son et en noir et blanc notre présence fugace sur Terre. Cette exposition, cette déambulation, ce parcours, comme je le disais à l'instant, est-ce que vous l'avez, vous, plutôt conçu comme un lieu d'errance pour le visiteur? C'est-à-dire, quelle expérience vous pensez lui proposer? Sensorielle, ça c'est évident, on a commencé à l'évoquer. Mémorielle aussi?
Comme je le disais, c'est des questions. Chaque œuvre est une question. Mais c'est une question qui est suffisamment ouverte. C'est peut-être que la beauté des arts plastiques par rapport à la parole, je parle pas de la poésie qui est tout à fait comme ce que j'essaye de faire, c'est que c'est à la fois précis et imprécis. Et que chacun prend ce qu'il a besoin de prendre. Et donc, effectivement, ça pose des questions sur le hasard, sur le bien et le mal, sur le déroulement de la vie. Mais chacun voit ce qu'il veut voir. Et si quelqu'un me dit c'est extrêmement joyeux, il aura tout à fait raison. Et on est toujours, on prend ce qui est profondément pour nous est une question dont on cherche soi-même la réponse, mais on sait très bien qu'il n'y a pas de réponse à la fin.
Son pandémonium empoissé de taches de couleurs n'était pas sans rappeler le spectacle de désolation du studio londonien de Francis Bacon. Ça, c'est toujours les mots de votre neveu dans la cache parlant de vous. Votre neveu journaliste écrivain Francis Bacon, que vous côtoyez actuellement et malgré vous au Centre Pompidou à l'occasion d'une exposition qui lui est consacrée à lui, à voir jusqu'au 20 janvier. Ce double rapprochement avec ce peintre du rouge et du cri, est-ce qu'il vous semble totalement fortuit?
Nous employons tous les deux beaucoup d'ampoules. C'est une chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a beaucoup d'ampoules dans ses œuvres, que j'aime énormément, naturellement, et que moi j'utilise aussi beaucoup le symbole de l'ampoule.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une quête ou un désespoir en commun? Écoutez Francis Bacon en 1964.
Tout l'effort des peintres du XXe siècle est de voir et d'essayer comme ils peuvent attraper la sensation plus directement sur le système nerveux. On veut maintenant une sorte de magie. Oui. Il n'y a que ça. On veut faire des objets, quelque chose, une magie qui holds.
Oui, qui tient.
Qui tient l'objet, mais la magie de l'objet aussi.
Mm-hmm. Vous parliez de la situation désespérée du peintre. Vous la croyez vraiment désespérée ou est-ce que vous approchez?
Non, je ne sais pas. Vous savez, avec moi, je n'ai jamais réussi. À cause de ça, je continue. Autrement, je ne peindrai plus. J'espère toujours que quelque chose va arriver.
Alors, faire son temps, et vous, Christian Boltanski, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir vu cette étincelle de magie, d'être arrivé là où vous vouliez, ou est-ce que vous vivez encore comme un peintre désespéré?
Ce que dit Bacon, c'est exactement ce que disait Giacometti. C'est exactement la même chose. Et je ne dirais pas tout à fait ça, je dirais, je cherche à comprendre, et je sais que je ne comprendrai jamais. Et que une des pièces récentes de l'exposition, une pièce que j'ai faite en Patagonie, où j'ai construit des très grandes trompes, et quand le vent s'engouffre dans ces trompes, ça fait le son de la parole des baleines, et pour les Indiens de cette région, les baleines sont ceux qui savent le début des temps. Donc je leur pose la question, mais naturellement elles ne me répondent pas. Mmh. Et ces trompes vont d'ailleurs se détruire très... Il y a des grandes tempêtes, donc elles vont tomber.
Dans Faire son temps, Christian Boltanski, on peut aussi y retrouver les mineurs belges du terril Grand Ornu, représentés par une montagne de manteaux noirs éclairés par le haut d'une lampe, ou encore les Véroniques, ces visages de femmes inspirés par le voile de Véronique, ou encore les fantômes de Varsovie, qui rassemblent des photographies trouvées lors d'une exposition dans la capitale polonaise. Des boîtes aussi, en métal, empilées, avec des photographies d'avis mortuaires collées sur les boîtes, une pyramide de Suisses morts, ou, autre réserve, des portraits accrochés sur linge blanc, échelle en bois, avec lampe à pince. Une trace de leur passage à tous sur Terre. Il y a eu, ils sont passés par là. Et vous, quelle trace, quelle empreinte personnelle laisseriez-vous? Est-ce que vous vous posez parfois cette question?
J'ai fait beaucoup de petits livres, d'une manière générale, et beaucoup de petits livres seulement avec des listes de noms. Parce que je pense qu'il est très important de redire des noms, et de redire non, dire il y a eu. Il y a eu monsieur Machin et madame Trucmuche. Et pour moi, c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, que ce qui peut rester le plus longtemps, ce sont les légendes et les mythes. Et donc, j'essaye de créer des légendes et des mythes. Et que mon nom soit oublié, mais que les légendes restent. Par exemple, dans une île du Japon, à Teshima, il y a donc cette réserve de battements de cœur où on a autour de 80 000 battements de cœur aujourd'hui. Et les visiteurs de cet endroit ne savent pas qui je suis, mais c'est un lieu de pèlerinage. Et les lieux de pèlerinage sont peut-être ce qui va durer le plus longtemps.
Voilà, un temps pour l'histoire, un temps pour les mythes, avec cette envie de recréer de nouveaux mythes. Bacon photographie dans son atelier, Boltanski, c'est vous, s'y laisse filmer. Depuis 2010, vous êtes surveillé H24 par des caméras installées dans votre atelier, on-off. Vous jouez un peu avec le diable, hein, un peu comme le Maître et Marguerite de Bulgakov ou le septième sceau de Bergman. Il n'y a qu'un pacte entre les deux.
Vemedu.
Qui es-tu?
Yaiduden.
Je suis la mort.
Tu
viens me chercher? Depuis longtemps, je marche à tes côtés. Je sais. Es-tu prêt? Mon corps, oui. Mais pas moi. Attends un instant. Tout le monde dit ça. Mais je n'accorde pas de délai.
Tu
joues aux échecs? Comment sais-tu? Je l'ai vu sur les peintures. Je suis un assez bon joueur. Pas meilleur que moi. Pourquoi veux-tu jouer avec moi? Ça me regarde. Tu as raison. Tant que je résiste, je vis. Et si je gagne, tu me libères. Tu as les noirs.
Ça passe bien, c'est intéressant.
C'est ma couleur.
Quel pacte avec le diable, Christian Boltanski, avez-vous noué en acceptant de vous laisser filmer comme ça?
C'était un désir que j'avais et c'est moi qui l'ai voulu. Peut-être on peut dire que toute mon activité a toujours échoué puisqu'on ne peut rien conserver et qu'on ne peut jamais lutter contre l'oubli. Et là, cet homme qui donc a acheté ma vie, et ma vie qui est filmée 24h sur 24 depuis maintenant 10 ans, enfin mon atelier, pas ma vie, parce que là je ne suis pas filmé par exemple, il a des milliers d'heures. Mais ça pose un peu la même question que les ordinateurs. Si vous cherchez mon nom sur l'ordinateur, vous aurez des milliers de réponses, mais tellement de réponses qu'on ne peut pas les lire. Et là, on ne peut pas vivre et regarder quelqu'un vivre. On ne peut pas... ces milliers et milliers de DVD, personne ne les verra jamais.
C'est une empreinte que vous laisserez. Et chacun se comportera face à ça comme il peut ou comme il veut. Une fois encore, liberté est laissée aux visiteurs et aux spectateurs. Christian Boltanski, merci beaucoup. Il y a un catalogue qui accompagne l'exposition. Faire son temps, c'est publié par les éditions du Centre Pompidou. Merci mille fois à vous d'avoir été avec nous. Et cette exposition à voir donc jusqu'au mois de mars. Au revoir.